Serge Dassault.
Vous savez, 35 heures, c'est le cancer de notre économie. C'est quelque chose qui nous ronge. C'est quelque chose qui empêche de travailler. C'est quelque chose qui augmente le coût de production. Et avec les 35 heures, c'est chômage assuré. Alors évidemment, hein, comme ça, il y a moins de gens qui travailleront. Ils travailleront plus du tout. C'est pas 35 heures, c'est 0 heure.
Oui, c'est Joël. Écoutez, moi aussi, j'ai entendu les facéties du nouveau comique, mais j'avoue que j'oscillais entre le comique, le rire et le catastrophisme, parce que quand je pense que cet homme-là, dénommé Dassault, est chef d'une si grande entreprise, et pas n'importe laquelle, hélas, ben écoutez, moi, ça me fait un peu peur. Franchement, ça me fait un peu peur. Allez, salut.
Allô, bonjour. C'est Rachid de Hinel. Amène-nous, cher Mirmi, ailleurs. Amène-nous chez le Tché, chez Allende, chez Baca, chez Chavez. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui nous éclairent, qui font tomber les murs de silence, les murs de la honte sur la France démocrate. Je suis un sans-papier comme d'autres. Un oui qui est venu chercher la liberté, la démocratie, assassiné par les chefs des États arabes, de Rabat à Riyad, et bientôt par les barbus. Darwish Désir, tous les cœurs des gens sont ma nationalité. Voilà, je vous laisse mon passeport. Merci, au revoir.
Bon, moi, je suis un auditeur et moi, je pense que les expulsions sont un contresens politique. Tout le monde sait bien que d'ici 10 ans, il faudra faire venir des millions d'étrangers en France et en Europe, et je dis bien des millions, et tout simplement à cause de la dénatalité. Et c'est une vérité incontournable et qui n'est d'ailleurs pas nouvelle. Et si on laissait la France aux Français, on en crèverait de vieillesse. Non, les expulsions, à l'heure actuelle, c'est une entorse aux droits de l'homme. Et ça tombe évidemment sur les plus pauvres et sur les plus démunis. Il paraît d'ailleurs qu'on voit dans les zones de transit, juste avant le charter, des mecs avec des sacs de chez Tati qui viennent juste d'acheter des couches pour leur bébé. Ça en dit long sur l'expulsion. Voilà, donc... Alors, c'est pas la question d'accueillir toute la misère du monde. La question, ce serait plutôt de pouvoir se regarder dans une glace. En ce moment, on a droit à de grandes tirades antiracistes. Et quand on entend Raffarin, on a l'impression que c'est le président de « Touche pas à mon pote ». Bon, il faut pas déconner. Raffarin, le pauvre, c'est plutôt lui qu'il faudrait reconduire à la frontière du réel. Bon, là, je voulais mettre des rires enregistrés, mais j'en ai pas trouvé. Hein, merci, au revoir.
Ah, cher monsieur Mermet, comme les choses sont compliquées. Le vieux bourgeois qui vous parle est né à Metz en 1929. Il allait régulièrement passer ses petites vacances à Homécourt. Vous savez, Homécourt, c'est tout près d'Algrange. Et imaginez-vous, c'est sa petite bonne polonaise, Wanda, qui l'amenait dans sa famille. C'était une cité minière fort pauvre. Mais c'était des vraies vacances quand même, tellement il y avait de la gentillesse dans ce bassin minier. Le papa et les deux fils aînés, ils descendaient tous les jours au fond de la mine pour ramener du minerai de fer. Et mon copain Stachek, qui avait 13 ans, il allait pas comme moi au lycée. Il roulait des wagonnets. Et la mère, c'était une sainte. Et les petits derniers, c'était des petits diables, mais c'était des anges. Et Wanda, le soir, elle chantait en s'accompagnant à la guitare. Et plein de monde était là, et on l'écoutait, et on chantait avec elle, et ces gens m'ont appris. Ils m'ont appris à aimer la musique. Ils m'ont appris à aimer les gens. Ils m'ont appris à aimer ma patrie aussi, parce que deux de ces Polonais, deux de ces Polaques, ils sont morts pour la France, dans les rangs de la résistance. Ah, monsieur Mermet, comme ces choses-là sont compliquées, parce que le vieux bourgeois qui vous parle en ce moment, eh bien... Durant 4 ans, il a été lui aussi un enfant caché. Et il sait qu'il y a en France des centaines de milliers, des millions de justes, des millions justes. Bon courage à cette famille d'origine algérienne. Bon courage, leurs enfants seront un jour notre richesse et notre fierté. Puis, quelque chose me dit que je suis peut-être à même de vous donner un petit coup de main, le cas échéant. À bientôt, au revoir et bravo.
Ils sont beaux, hein, ces messages sur le répondeur 01 56 40 37 137. Très beau celui-là. Et effectivement, ben, on mettra cet auditeur en contact avec ceux qui, à Algrange, se battent pour éviter la reconduite à la frontière de cette famille Rouab. Cette histoire d'hier vous a beaucoup secoué et nous a valu beaucoup de réactions sur le répondeur. Aujourd'hui, on va revenir sur une chose dont je sais pas si vous vous souvenez vaguement. Le voile, ça vous dit quelque chose? Le voile, le foulard, hein, c'est ancien, hein. Oui, on sait plus quand. On n'en parle plus, en tout cas. Et justement, ça nous a donné envie d'en reparler. D'en reparler, mais alors calmement, tranquillement, autour d'une tasse de thé, entre deux femmes, Olivia, notre reporter, et puis Khadija, une femme qui porte le voile. Et on va essayer de voir ce que ça donne quand on parle de voile et de féminisme, par exemple. Est-ce que il y a un rapport entre les deux mots? Si on dit Coran et lumière, est-ce que c'est deux mots qui peuvent se rapprocher? Si on dit islamisme et progressisme, est-ce que c'est deux mots qui peuvent se rapprocher? Une conversation calme pendant une heure dans la basse, si j'y suis. Après ces messages qui suivent, les vôtres, au 01 56 40 37 37.
Alors, je réagis par rapport à l'émission d'hier. Alors, je voudrais juste dire bravo à monsieur le maire d'Algrange. Merci pour toute votre humanité. Et ça fait rudement plaisir que des maires se bougent pour des causes aussi justes et aussi humaines. Voilà, je dis bon courage à la famille Rouab. Et puis voilà, au revoir.
Oui, bonjour Daniel et toute l'équipe de La Basse Si J'y Suis, avec celle de Boulogne. J'ai écouté votre émission concernant la famille Rouab ce mercredi 15 décembre. Et étant proche du collectif, c'est sûr, de Calais, et donc des réfugiés, je ne peux que réagir et redire ma révolte contre notre politique française d'immigration. Faites d'hypocrisie et de lâcheté. Ça fait plus de 2 ans maintenant que le camp de Sangatte est fermé et que soi-disant le problème de l'immigration à Calais est réglé. Eh bien, je tiens à redire sur le répondeur de là-bas si j'y suis que tout ça est complètement faux. Ce sont les bénévoles de Cessure qui chaque jour préparent les repas pour les réfugiés. Et la seule réponse de notre cher gouvernement français, c'est la répression policière contre les réfugiés et l'accumulation d'interpellations et d'acharnements contre les bénévoles. Quand j'entends ce monsieur RMiste dire que pour les étrangers, c'est finalement assez simple d'arriver et de rester en France, là, je suis révoltée. J'entends bien sa détresse, mais il resserre malheureusement un discours trop simpliste et bien réfléchi par des hommes haut placés qui n'en ont rien à faire de la misère, qu'elle soit française ou étrangère. Ensuite, quand j'entends ce monsieur secrétaire général de je ne sais plus quelle préfecture nous dire que chaque jour des centaines de personnes sont renvoyées dans leur pays sans que personne ne s'en émeuve et que par conséquent, ce serait trop injuste de privilégier une personne soutenue par un collectif, ça me donne franchement envie de vomir. Et qu'il sache, ce monsieur, eh bien que non, ces centaines de personnes renvoyées par charter dans leur pays chaque jour ne sont pas sans émouvoir des milliers de citoyens français. Voilà, alors je voudrais terminer en insistant sur le fait que les personnes qui quittent leur pays, leurs racines, ne le font jamais par gaieté de cœur et que ce n'est pas pour s'enrichir qu'ils demandent l'asile en France, mais pour survivre. Il y a quelques jours, une Africaine a mis au monde son enfant à Calais. Il pèse 1,5 kg et cette femme est seule dans les rues de Calais. Je ne crois pas qu'elle ait rêvé de ça pour son enfant. Voilà, je voulais juste témoigner de tout ça. J'espère que mon message passera et continuons la lutte. Au revoir.
Bonjour, ici Dominique de Gérardmer. Aujourd'hui, c'est le 269e jour que Madame Benereta Berdika, réfugiée albanaise, et ses deux enfants sont maintenus en situation irrégulière par Monsieur le préfet des Vosges et Monsieur de Villepin, qui refusent de lui délivrer une carte de séjour en dépit des instructions formulées le 22 mars dernier par Monsieur Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Il apparaît nettement que Madame Berdika et ses enfants sont des victimes innocentes de luttes d'influence au sein de l'UMP. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas.
Salut Daniel, c'est Dom d'Anduze, une petite ville de 3000 habitants au pied des Cévennes. Tant qu'il y aura des émissions comme la tienne, il y aura de l'espoir. Et tant qu'il y aura de l'espoir, il y aura des associations pour défendre la démocratie. Ici, l'association qui défend la démocratie, s'appelle impatience démocratique. On joue un peu le rôle de poil à gratter auprès des élus d'ici ou d'ailleurs. On fait la fête aussi. Et justement, samedi 18 décembre, on va faire la fête avec José Beauvais, François Roux, Agnès Bertrand et quelques autres copains. À 17h, on commence par un film, Opération Salami, puis un débat avec nos amis et on va finir par un groupe de Santiago de Cuba, Melao. On va beaucoup parler des obéissances civiques. Beaucoup danser aussi. Tout ça pour 5 euros. Salut Daniel, si tu sais pas quoi faire, samedi soir, on t'invite.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Basie J'y suis, avec Olivia Gesbert. Conversation avec Khadija.
Flight number 2, arriving from New
Bravo, le thé marocain.
Donc ça, il faut pas le dire. Hein.
Puis, la menthe marocaine.
Et toi, Khadija, t'as toujours ton stock de menthe fraîche prête?
Pas souvent, pour dire la vérité. En fait, tout au début, j'avais une petite prière qui était une petite... Ça me rappelait... Voilà. Moi, ça me rappelle parce que comme quand je partais en voyage avec mon père, c'est comme moi, un accro de la nature, donc on partait en montagne et tout. Et c'était notre petite cuillère qui était tout le temps avec nous. Et donc, je l'ai ramenée avec moi en France. Je voulais absolument garder ça comme souvenir de notre petit voyage ensemble.
Tu t'appelles Khadija, je prononce bien.
Ouais, c'est Khadija, normalement. Et comme le Kha n'existe pas en français, donc normalement on met K-H et c'est Khadija. Ça se prononce K-H, ouais.
Ingénieur, sociologue, jolie femme, élégante, engagée, militante, et voilée. Voilée. Alors, voilée, donc soumise, donc victime des 3 V. Vol, viol, voile. Khadija, elle nous a dit son nom. On l'a rencontrée il y a quelques mois lors d'une émission avec Alain Grèche à l'occasion de la sortie de son livre sur l'islamisme. Je le disais en entrant, vous vous souvenez de cette histoire de foulard, ces histoires de prise de bec et de couteau tiré, de société déchirée, divisée autour de la question du voile, entre les Charles Martel de la laïcité et les Ben Laden d'Aubervilliers. Ça semble déjà bien loin, tout ça. Ça semble déjà oublié. Ça reviendra et on verra à nouveau ce que voile le voile et ce qu'il dévoile. Un racisme respectable, dit Saïd Bouamama dans un bouquin que je vous conseille qui s'appelle « L'affaire du foulard islamique ». Islamique, oulala, ça c'est des mots qui font peur, c'est des mots forts. Pourquoi cette femme, ingénieure, sociologue, charmante, élégante, militante et engagée, porte-t-elle le voile ? En parlant avec les habitants des barrios, des quartiers de Caracas ces jours derniers avec Antoine et Guive, on leur disait, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour vous depuis que vous avez lu Hugo Chavez ? C'est vrai que leur vie s'est pas encore très nettement améliorée à ces 80% de pauvres Vénézuéliens. Mais une chose, la dignité, mais attendez, ça c'est des mots creux, c'est des mots de riches, la dignité. Nous sommes visibles, nous ont dit ces gens. Nous sommes visibles. On nous voit maintenant. On vous voit où? On nous voit à la télé. On est visible. Ça y est. D'ailleurs, vous êtes là avec vos micros. Les étrangers, les Européens, les Français viennent nous voir. On est visible. C'est ça notre dignité. Ah ah ah. Et si porter le voile, c'était ça? Peut-être. Hypothèse. C'est une de ces hypothèses, une de ces questions qu'on a eu envie de poser à Khadija qui porte le voile. Nul n'est plus désespérément esclave que celui qui se croit libre alors qu'il ne l'est point, nous disait Goethe. Et au sujet du voile, toujours dans le bouquin de Saïd Bouamama, il parle à un moment de Pierre Bourdieu qui s'est intéressé beaucoup à ces affaires de voile, à ce débat sur le foulard. Il voyait dans ce débat un révélateur de l'état du débat politique en France, disant la question réelle qui est révélée est celle des inégalités et discriminations qui touchent les Français issus de la colonisation. Et qu'on le veuille ou non, eh bien, il y a cet héritage inattendu, il y a cet héritage involontaire de la colonisation, décolonisation, une pluralité culturelle et religieuse qui ne peut plus être niée et qui vient bousculer l'imaginaire sur lequel s'est opérée la construction française et l'imaginaire français et l'identité française. C'est ce à quoi nous assistons, ce choc, dans nos sociétés, avec évidemment la construction de ce débat qui sert à la fois de diversion et de division, comme on le sait. Mais aujourd'hui, c'est une conversation très simple qu'on va avoir, une conversation entre Khadija, la femme avec le voile, et Olivia, de là-bas, si j'y suis, une conversation calme, lente, douce, autour d'un thé à la menthe.
Le voile à l'école. folle furibole, alto ridicule, rappelé dira, la querelle est nulle, fais ce que voudra.
Ici on est chez toi.
Oui, vous êtes bien chez moi, donc c'est mon lieu.
Quand on regarde là, dans le salon, qui fait aussi chambre à coucher, ça c'est le lit.
C'est le lit, oui, c'est mon lit.
Je regardais moi les livres en t'attendant pendant que tu faisais la prière. Et tu peux m'en parler un peu?
Comme vous pouvez en fait le remarquer, il y a Noam Chomsky, La fabrique de l'opinion, il y a du Edouard Saïd, il y a de Farhad Khosrow Kavar, l'islam en fait dans les prisons, il y a de Leïla Babi, c'est Tariq Kobro, Loi d'Allah, Loi des hommes, il y a aussi en fait des livres de Tariq Ramadan, il y a un livre aussi de Pascal Blanchard, Zohumaine, il y a le siècle du féminisme, entre autres, c'est un livre collectif de féministes. À côté, bon bah il y a aussi des romans, il y a des choses de Balzac, il y a des livres, c'est tout en haut, il y a de la poésie, j'aime beaucoup la poésie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi en fait un Coran en français. J'ai en fait des livres de sociologie, Alain Touraine, Critique de la modernité. Et puis tout en haut, il y a aussi des livres d'informatique ou de la langue que j'utilise.
Et si on recroise un peu tout ça, ça construit un peu ta pensée ou il y en a que tu as lu juste pour te faire une idée mais que tu rejettes particulièrement ou tout ça c'est un peu tes influences?
Non, je crois que c'est à l'image de ma pensée. En fait, c'est ce mélange-là. Donc, oui, il y a une place, je dirais, à des lectures religieuses. Il y a une place à une lecture plus militante. Il y a une place à des lectures, je dirais, un peu plus de la sociologie. Il y a des études, je dirais, de plus humaines. Et puis, il y a de l'informatique. C'est ma vie professionnelle. En gros, oui, effectivement, je crois. Enfin, j'ai jamais fait leur main. Mais c'est vrai que cette bibliothèque, elle est à l'image aussi de ce mélange dans ma vie, de plein d'autres de choses qui sont venues plus ou moins, enfin je dirais, s'interférer.
Et c'est la sociologie ou l'informatique, ta vie professionnelle?
Ah, alors là, c'est une longue histoire, en fait. Normalement, je commençais par l'informatique et après, là, maintenant, je prépare un diplôme en sociologie. Et ça, c'était justement dû à tous ces débats-là autour de la laïcité, l'islam, le foulard. Mais vraiment, avec ce débat-là, il y avait un sentiment, je dirais, de... Enfin, comment je pourrais dire ça? De dégoût, de... Je sentais franchement qu'il y avait beaucoup de manipulation. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup de manipulation, mais de tous les côtés, par les politiciens, par certains musulmans eux-mêmes d'ailleurs, certains responsables, par même certains intellectuels, soi-disant sociologues, ou des féministes, ou des... Ça fait comme une certaine révolte en moi. Une certaine révolte qui fait que vraiment, je me suis dit... Franchement, j'en ai marre qu'on parle de moi comme ça. J'en ai marre vraiment qu'on parle de ces femmes-là, quelle qu'elle soit leur orientation et tout, de cette manière-là. Et j'avais vraiment envie de me prendre en charge. J'avais vraiment envie de chercher moi-même à trouver sens à tous ces débats vraiment autour de moi. Et c'est là où j'ai décidé de faire des études en sociologie.
Et en même temps, au moment de ce grand débat sur la laïcité, c'était surtout les lycéennes ou les collégiennes qui étaient mises en avant dans le débat, puisqu'on parlait de la laïcité notamment à l'école. Enfin, c'était le noyau du débat. Or, toi, tu as plus de 17 ans, non?
Mais ça, c'est...
T'as quel âge?
J'ai en fait 32 ans, je viens juste de fêter mon anniversaire.
Mais tu te sentais quand même, mon anniversaire aussi, concerné par tout ça?
Oui, bah, justement, enfin, ça c'est le dessous des cartes, si on peut dire. On parlait des lycéennes, mais non, enfin, moi je le sentais dans ma vie quotidienne. Il suffit en fait de rentrer dans le métro RER, le regard qu'on avait en fait sur la personne qui porte foulard suite à telle ou telle émission ou suite à tel ou tel événement. Il y avait quand même des répercussions plus large que l'école. C'est vraiment à côté, il y avait franchement une manière de généraliser cette problématique qui était quand même je dirais pesant sur pas mal de personnes. Un regard qui était un peu plus de suspicion, pour ne pas dire un regard accusateur, quoi. Vous êtes chez nous, vous n'avez qu'à se plier en fait à nos règles, et puis voilà, basta. La chose qui m'a beaucoup marquée, c'était une fois j'ai pris en fait la ligne 2, je me rendais à Charles de Gaulle, et là c'était en fait, je rentre, il y avait une dame qui était en train d'insulter deux femmes qui portaient le foulard, et qui étaient franchement des femmes d'un certain d'un âge, quoi, et qui étaient là à leur dire partez en Iran, allez en Arabie Saoudite, qu'est-ce que vous faites là? Et là, je vous avoue que franchement, moi, ça m'a énervée. Et puis surtout, ce qui m'a encore plus énervée, c'était ce silence-là qui était là, personne qui parlait. Bon, en fait, je lui demandais de deux choses. Soit il ferme, enfin, il arrête, soit, en fait, j'allais tirer le signal d'alarme. Je lui dis, moi, un train, il doit s'arrêter quand on a ce genre de propos racistes. Et donc là, effectivement, là, comme par hasard, donc, y a des gens qui ont commencé à commenter en disant, oui, effectivement, enfin, c'est pas normal, machin. Et là, il s'était. Hein. Et ben voilà, pourtant là, on n'est pas à l'école, on n'est pas. Et c'est là qui. L'aspect dangereux de cette affaire-là, c'est que ça permet quand même de libérer certains non-dits et aussi certaines expressions d'un racisme, je dirais, profond.
Le choc des incultures, le choc des incultures. C'est comme ça que Radija me parlait de la polémique autour du foulard, autour du voile. On profite de ce que, pour l'instant, le débat soit un peu mis de côté, un peu calmé, peut-être, sans doute pas définitivement, pour en parler d'une façon calme.
La sociologie, pour moi, c'est pas un métier en soi. Donc moi, comme je disais, le préciser tout à l'heure, je l'ai fait pour des attentes personnelles, pour répondre aussi à des questions aussi personnelles, pour aussi essayer de comprendre ce débat autrement. Enfin, j'ai compris. Bon, bah voilà, c'est très simple de dire les Français ne nous aiment pas, ils sont des racistes. De toute façon, pour eux, qu'on soit des Français ou non, bon, on restera toujours des Maghrébins basanés. Point barre, quoi. Et pour eux, voilà, on est des étrangers. C'est facile de faire ce genre de conclusion. C'est très, très simple. Moi, je pense que les choses sont plus compliquées que ça. Et c'est pourquoi, justement, j'ai décidé de faire ces études-là. J'ai envie de comprendre pourquoi. Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi il y avait des gens, par exemple, avec qui je militais, qui avaient une vingtaine d'années, en fait, derrière eux, qui se sont battus, par exemple, contre les bidonvilles de Nanterre, qui se sont battus contre, par exemple, pour la libération de l'Algérie et tout. Et d'un seul coup, sur cette affaire-là, non, enfin, il y avait une autre manière d'aborder les choses. Moi, ça m'intrigue. Je peux pas dire ces gens-là comme ça facilement, ce sont des racistes. Je sais pas, j'ai envie de comprendre pourquoi. Je crois que c'était ça. C'était surtout, comme moi-même, je suis membre d'Amnesty International, j'ai milité pas mal sur pas mal de sujets avec Attac, je connais plein de gens de la Ligue des droits de l'homme, de d'autres organismes qui avait quand même une attitude différente sur ce sujet-là, qui, franchement, avec des propos pareils, genre, oui, enfin, le foulard n'a pas sa place ici, et là, après, on a envie de poser la question, alors ça veut dire quoi? Moi, je ne suis bonne que comme femme qui vient pleurer et dire, aidez-moi, s'il vous plaît, je fais partie du tiers-monde, j'ai des problèmes, ou que je viens ici en France, je suis une femme battue, Mohamed ou Abdel m'a foutu une dans la gueule, et puis voilà, je viens, en fait, pleurer mon sort. Ben non, enfin, là maintenant, c'est une autre génération, et parmi cette génération, il y a des femmes qui portent ou qui ne portent pas d'ailleurs le foulard, qui veulent rentrer dans cette relation d'égal à égal, et qui veulent dire, bon ben ça va, nous c'est notre, enfin c'est un choix qu'on a fait, on l'assume, mais là on a envie de mener des combats ensemble. Donc voilà, c'est tout aussi cette manipulation aussi qui s'est faite par certains soi-disant intellectuels, représentants en fait médiatiques de, entre guillemets, la communauté musulmane. Ça aussi, c'était quelque chose qui m'a vraiment révoltée. Peut-être les choses ne se posent pas de la même manière, mais en tout cas, l'histoire, elle est toujours là. Il faut revenir et comprendre. Je travaille sur la laïcité en Algérie. Je dis, mais tiens, mince, là maintenant, on nous dit, bon, il faut absolument, en fait, montrer que l'islam, il accepte la laïcité, il accepte la démocratie et tout. Quand je cherchais, bon, voilà, bon, il y avait, en fait, ce qu'ils appellent enfin les ulamas à l'époque qui ont demandé justement à la France, quand l'Algérie était la colonie française, enfin l'Algérie française entre guillemets, et ils ont dit bah attends, appliquez à nous la laïcité. Et là la France elle a refusé, enfin ou la lobby coloniale quoi, il a refusé d'appliquer la laïcité à l'Algérie. Et là je me suis dit bah alors comment ça se fait? Donc c'est une laïcité à géométrie variable ou voilà, il y a aussi le fait le fameux fait dévoilement des femmes en Algérie, donc c'était en 57-56, je me rappelle plus très bien, voilà, au milieu d'une grande place en Algérie, on ramène des femmes, enfin c'était des femmes qu'on a arrachées soit à leur foyer, soit enfin je dirais des pauvres femmes qui travaillent de ménage et tout, on les a ramenées au milieu d'une grande place en Algérie, et voilà, c'était toute une cérémonie de dévoilement avec vraiment des gens qui vont filmer tout, et puis avec des applaudissements, les gens qui doivent applaudir des Européens qui sont venus là à émanciper la femme algérienne, ils lui enlèvent son foulard et on applaudit, vive l'Algérie française, Charles de Gaulle qui vient émanciper les femmes algériennes. Ben ça aussi c'est mon histoire, je comprends qu'il y a plein de Français peut-être qu'ils se souviennent pas de ça. Mais moi,
on a tenté de refaire aussi avec l'Afghanistan, enfin les Américains. Voilà. C'était un peu la même.
Donc, moi, je me souviens de ça parce que c'est aussi mon histoire. Et en gros, aussi, cette génération, il faut comprendre que je crois un de nos gros problèmes dans cette société, c'est qu'on n'a pas, réussi à faire une mémoire collective. On n'a pas réussi, justement, à revenir sur ces plaies-là. Quand je dis revenir, c'est pas revenir pour faire un bilan comptable. Non, pas du tout. Il s'agit pas, franchement, de dire à qui la faute. Enfin, c'est surtout de revenir pour en tirer des leçons, c'est revenir pour comprendre aussi les émotions des uns et des autres. Ben, c'est normal que maintenant on fait des filles qui ont des grandes mères qui ont dû leur raconter cette histoire que je viens de citer de dévoilement et tout, que quand aujourd'hui on leur dit enlevez vos foulards, et ben que ça leur rappelle des souvenirs, des souvenirs amers. Et justement pour peut-être enfin je dirais ramener le débat à la raison, ben il faut reconnaître l'être humain dans toutes ces dimensions là quoi.
Toi, t'es venue du Maroc, ici en France, il y a 7 ans, tu me disais, c'est ça?
Oui, il y a 7 ans. Ben, je suis venue en fait pour continuer mes études ici, donc j'avais mon diplôme d'ingénieur au Maroc, et puis après je suis venue ici pour 3e cycle. Puis après, bon, on m'a fait mes papiers, et puis je commence à travailler ici en France, et depuis maintenant je suis résidente en France, quoi.
Donc a priori, tu vas rester un peu?
Je vais rester pour l'instant. Ce que je dis, c'est que j'ai pris ma décision. Avant de rester ici en France, j'ai pris la décision. Je dis deux choses. Il n'y a pas un peu ou un peu plus ou un peu moins. Je dis, il ne faut pas non plus refaire les mêmes problèmes qu'une première génération vague d'immigration qui sont venues ici en disant oui, je vais travailler, gagner de l'argent et je reviens au bled pour faire ma vie. Non, pour moi, c'était pas comme ça. C'était deux choses. Soit voilà, tu veux t'installer ici en France et faire ta vie, ou tu veux rentrer au Maroc et faire ta vie là-bas. Donc moi, le choix était fait, et le choix, c'était je fais ma vie en France.
Tu vas demander la nationalité, ou tu l'as déjà demandé?
C'est en cours, donc je suis en fait pour demande de nationalité, et on verra bien ce que ça va donner.
C'est tes parents sur les photos à côté?
Oui, c'est mon père, donc là, c'est, comme je dis, moi, c'est mon Pierrot à moi. Ce sont des parents qui se sont battus quoi pour élever leurs enfants. Surtout mon père, je sais qu'en fait, il avait un salaire qui était modeste. En fait, il travaillait dans une maison de bienfaisance, c'était ailleurs, et puis il devait quand même élever 8 enfants. Donc vous imaginez, avec un salaire l'équivalent, même pas peut-être ici, on va dire, de 100-300 euros, peut-être, même pas, payer le loyer, tout le monde faisait des études, ramener à manger. On habitait dans un quartier où, je dirais peut-être 60%, c'était des cas sociaux, enfin désespérés. Pour lui, avec ma mère, donc le rêve c'était qu'on arrive à s'en sortir. Et le seul moyen de s'en sortir, il pourrait pas nous laisser un héritage, ni je dirais nous léguer en fait un poste important. L'ascenseur social qu'on avait, c'était les études.
Et lui, il n'avait pas fait des études.
Non, d'ailleurs c'est ce qui est marrant, c'est que en fait là, ça fait 3 ans qu'il est retraité, et c'est une fois qu'il a eu sa retraite qu'il a commencé des études. Mon père et ma mère sont des alphabets, et pourtant on est 5 ingénieurs, 3 économistes. Donc pour moi c'est un chef-d'œuvre quoi qu'ils ont fait dans leur vie, en arrivant quand même à relever le défi de dire même si on est des alphabets, donc on fera de ce qu'on, enfin de notre mieux pour faire de telle sorte à ce que nos enfants puissent avoir une situation meilleure que la nôtre. Et donc voilà, donc il a commencé en fait des cours d'alphabétisation, donc il m'a montré l'année dernière ses copies, il disait en fait la première fois quand je l'ai eu au téléphone, il disait j'ai eu 20 sur 18, je dis non, on dit pas 20 sur 18, on dit 18 sur 20, donc il était tout content de ses notes, il a maintenant en fait, il est tout content qu'il arrive maintenant à lire. Et ce qui était marrant aussi, c'est que l'été... quand il était en train de me montrer ses livres et puis ses copies et tout, corrigées, enfin, je commençais à rêver pour lui. Je dis, tiens, peut-être qu'en fait, il va avoir son baccalauréat, il va faire polytechnique. Et puis, je rêvais, je me disais... Puis après, c'est vrai que je me suis rêvée avec les larmes aux yeux, puis je me disais, tu imagines, ça veut dire que lui, il a dû rêver pour nous 8. Les 8 enfants qu'il avait, il a dû rêver pour chacun, pour qu'on puisse s'en sortir. Et ça, c'est vrai que c'est des choses aussi qui font partie de notre histoire, enfin, ou même de la génération qui vit ici, c'est que on est issu quand même d'un milieu, je dirais, où les parents se sont battus pour qu'on puisse avoir une situation. Par exemple, moi, en fait, je travaillais avant chez un grand constructeur d'automobiles. Bon, ça faisait tout un problème que je sois enfin cadre avec un foulard sur la tête. Et par contre, quand il y avait des femmes de ménage qui venaient avec un foulard sur la tête vider les poubelles ou nettoyer les toilettes, ça faisait pas problème. Donc moi, en fait, je voyais dans ces gens-là des gens qui ressemblent à ce père dont je parle, à ma mère aussi, qui se sont battus tout pour qu'on puisse avoir une situation meilleure. Et là, on demande vraiment comme sorte de coupure. Et dans mon foulard, il y a aussi cette histoire-là. Il y a cette histoire, en fait, une reconnaissance pour moi par rapport à mes parents, quoi. C'est-à-dire un combat social, en quelque sorte, donc qui n'a rien à voir avec le religieux, je le reconnais, qui n'a rien à voir avec le religieux. Pour moi aussi, pourquoi? Enfin, c'est une question que je pose. Pourquoi, en fait, ces gens-là, on les accepte dans ce genre, par exemple, de travaux, et quand il s'agit d'un autre lieu, non, ça, par contre, là, on commence, en fait, à parler laïcité, émancipation, libération, machin, enfin, tout travail mérite respect, quoi, que ça soit, en fait, nettoyer, je dirais, les toilettes ou nettoyer l'ordinateur du virus, je dirais, c'est pareil.
Et alors, du coup, comment t'as pu payer ton voyage ici? Tu as eu une bourse d'études ou quelque chose pour venir travailler là?
Alors non, là, c'est en fait, c'est le système des valeurs, je dirais, de solidarité qui fonctionne entre les frères et sœurs. Mes frères, en fait, qui étaient avant moi, qui ont pu, en fait, s'en sortir. Ils ont une situation, donc après, ils m'aident à faire mes études. Et moi, pareil, quand j'ai pu m'en sortir, j'ai aidé aussi mon petit frère à faire lui aussi ses études. Mmh. Enfin, en gros, c'est la corde, quoi. Chacun, quand il monte, il tire un petit peu, il remonte, il monte l'autre avec lui. Et l'autre, quand il remonte sur la surface, il tire aussi pour que l'autre puisse venir pouvoir retrouver plus ou moins une situation et avoir sa chance dans la vie.
Ta mère, elle a compris tes choix, ton choix de venir t'installer là, ton choix de travailler, ton choix de pas être mariée, parce que je crois que tu l'es pas.
Bon, c'est vrai que par rapport à un certain âge, donc normalement, le schéma traditionnel, voilà, enfin, une fois que t'as fini tes études, bah, mariage, famille, et voilà. Et c'est vrai que, par exemple, par rapport à ma mère, bah, mes engagements militantes et tout, ils n'arrivaient pas du tout à les comprendre, même maintenant, quoi. C'est clair qu'en fait, elle a beaucoup d'admiration, mais en même temps, je crois qu'il y a une espèce de crainte qui s'installe, quoi. C'est-à-dire de dire, mais j'aimerais bien que tout ça puisse aboutir, hein. J'espère qu'un jour, tu regretteras pas ces choix. Mais c'est vrai que parfois, c'est... Comment je peux dire ça? Ça peut devenir parfois vraiment du chantage affectif. Parfois, c'est avec l'affectif qu'on va demander certaines choses et tout. Et c'est clair que ça fait mal au cœur, quoi. Parfois, c'est dur à assumer. Je suis pas quelqu'un qui me dit que je suis contre le mariage. J'ai rien contre le mariage ou la vie amoureuse. Mais tout simplement, bah oui, j'ai envie de faire ma vie, mais de le faire comme moi j'ai envie de la faire. Et avec la personne qui pourrait me comprendre, qui pourrait comprendre aussi mes combats, quelqu'un avec qui je me sentirais bien et qui j'arriverais vraiment à faire un projet de vie.
Mais tu vas pas me dire qu'à 32 ans, t'as jamais été amoureuse une fois dans ta vie?
Oh, si, quand même, bah, enfin, attends, enfin, moi, je crois quand même que dans la vie, s'il y a quelque chose quand même qui rend la vie une vie, quoi, ou agréable, c'est aussi le sentiment d'amour. Je crois que j'étais amoureuse de toutes mes profs, d'abord, déjà tout petite. J'aimais beaucoup mes profs, c'était pour moi toujours exemple. Oui, bah, enfin, je pense pas que... Moi, au début, c'est vrai, par exemple, je pensais qu'en fait, il faut qu'il y ait des ingrédients. Et ces ingrédients-là vont permettre à l'un et l'autre de se mettre d'accord et après, de faire une vie. Mais le problème, c'est que comme on est des êtres humains qui évoluent sans cesse, ces ingrédients eux-mêmes changent.
T'as le sentiment que pour l'instant, c'est difficile parce que tu changes tellement vite que tu te dis que personne ne va réussir à suivre.
Ah oui, c'est vrai que depuis que je suis arrivée ici en France, je peux dire que... Oh bon, bah, Khadija du Maroc et Khadija de la France, c'est pas pareil. La façon dont je lisais, par exemple, le Coran au Maroc et dont je le lis ici, c'est pas pareil. Moi, je crois que c'est un petit peu comme ce que disait Warshawski quand il parlait du conflit israélo-palestinien et que des gens qui veulent la paix, ils vivent sur la frontière. Bah, je crois que les gens qui vivent entre, je dirais, deux cultures qui n'ont pas envie de faire le choix. Moi, je veux ni qu'on m'impose la culture orientale, ni la culture, en fait, occidentale, mais j'aime bien des choses des deux cultures. C'est, en fait, on développe une identité frontalière et donc on vit sur la frontière. Mais comme c'est pas toujours agréable, ni paisible, ni en fait heureux de vivre sur la frontière, il n'y en a pas beaucoup de gens qui aiment ça. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec peu de monde qui peuvent en fait assumer ce genre de vie. Mais moi, c'est là où je me dis, c'est un choix et je l'assume.
Conversation avec Khadija. Aujourd'hui, je me rappelle, elle a 32 ans, elle est née au Maroc, elle est ingénieure informatique et elle s'est convertie à la sociologie. Dans sa bibliothèque, on trouve Chomsky, Balzac et le Coran. Elle a évoqué des choses très intéressantes, le dévoilement obligatoire en Algérie dans les années 50. Par cette France et sa mission civilisatrice, des scènes, envoyer des scènes analogues en Iran, à l'époque où le Shah, pour moderniser son pays, avait des sbires qui dévoilaient les femmes. Donc il y a cette mémoire du voile comme une identité, comme une dignité. Voilà ce qui explique pourquoi Khadija porte son voile. Elle n'a pas gardé son foulard dans sa poche.
Tu nous prépares quoi pour le déjeuner?
Il y a un petit plat, mélange, je dirais, cuisine marocaine et française. Donc c'est des cuisses de poulet avec de la sauce, avec haricots verts, cuisinés à la marocaine. Comme avant, quand j'étais étudiante, j'habitais dans 9 mètres carrés, donc une chambre étudiante où tout se sent dedans. Donc vraiment, mon rêve, c'était aussi d'avoir un petit coin cuisine avec une petite fenêtre pour ne pas avoir l'odeur à l'intérieur. Je suis arrivée ici en 2000. Donc là, ça fait bientôt 5 ans que je suis ici. Mais sinon, en France, donc ça fait plutôt maintenant bientôt 7 ans.
7 ans en France?
Ouais, j'ai entamé même mes 8 ans. Oui, donc en fait, je suis à la frontière du Vésinet, c'est à Lepec. C'est un lieu résidentiel, donc pas de logements sociaux. Hein. Ben, j'ai eu la chance de tomber sur cet appartement qui était au même prix que ce que j'ai trouvé sur Paris. Bon, c'est vrai que c'est un peu loin. Ben, là, je paye en fait 500 euros, charges comprises. 32, je crois, c'est 32, c'est du 32.
32 mètres carrés.
Je vais essayer de mettre du beurre sur mes cuisses pour les faire bien griller.
Sur tes cuisses de poulet, hein, s'il
voilà,
te plaît.
Mes cuisses de poulet. Voilà, attends, oui, c'est vrai. Oh là là. Oh là là, oh là là. Non, non, ça explose pas. Juste, ça montre qu'il y a quelque chose dans le four. C'est un rappel permanent. Bon, ben, je crois qu'on peut s'asseoir pour manger. Tarakoum avec une sauce à la marocaine. Ben, tu me diras après. Ouais. Ben, moi, en fait, franchement, je trouve que c'est agréable de vivre entre deux cultures parce que c'est vrai que ça permet. C'est un petit peu, je dirais, comme un plat de cuisine, quoi, que j'ai préparé là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui sont agréables, que j'aime bien dans ma culture arabe, africaine, marocaine. Et puis, il y a aussi des choses dans la culture française, occidentale, que je trouve qui sont très bien et que j'aimerais bien les garder. C'est vrai qu'en fait, c'est une marche à deux pieds, dans deux mondes différents. C'est pas toujours évident. Il y a des moments où ça devient désagréable quand c'est un tiraillement en fait qui se passe entre les deux mondes, ou parfois en fait dans des situations où on vous oblige à choisir cette affaire là de foulard et tout. Ben c'est vrai que pour moi c'était quand même je dirais une sorte de forcing à exercer sur certaines femmes qui l'ont choisi, bien sûr. Je parle pas de celles qu'on leur a obligé de le mettre, ça par contre c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, mais pour celles qui l'ont choisi en fait en tant que conscience de le porter, de leur dire si vous le portez, ça veut dire que tout simplement vous n'êtes pas bien intégré dans cette société là, vous n'avez pas encore assimilé la culture française, ce que c'est que les grandes valeurs de la République, l'émancipation de la femme. Alors que moi, par exemple, personnellement, pour moi, c'est aussi une autre manière de s'émanciper. C'est une autre façon de vivre ma liberté en tant que femme. Pour moi, ce n'était ni un handicap, ni, je dirais, une frontière entre moi et d'autres personnes. Et c'est vrai qu'en fait, quand on est dans une telle situation, on vous oblige à choisir. Oui, c'est douloureux. Et en fait, en gros, ça permet justement de faire le pont entre deux cultures. Dans une époque, on n'arrête pas de nous rabâcher, enfin, en disant, il y a le choc des cultures, il y a le choc des civilisations. Ben non, je crois qu'en fait, quand on prend notre vie quotidienne, il y a plein de choses de valeurs qu'on arrive à conjuguer ensemble pour en faire une autre manière de vivre. Alors, comme disait Simone Veil, la philosophe, se déraciner pour atteindre l'universel, c'est une obligation, mais déraciner l'autre pour atteindre l'universel, c'est un crime. Quoi.
Bon, allez, mange, parce qu'on parle après du foulard, sinon...
على هاد الزمان واشنو صار دخلت الماريكا الناس تقوات ونسى علينا جارو دخلت الماريكا الناس تقوت ونسى علينا جارو حتى من العزايزات هدارو نقاب على سوينقو مشارو المجوجات دارو سباب على رجالتهم غابو الزين والعين الزرقا جنبكم الخير اليوم يمشيو بالفرقة البنات ما في خير شحال منه معشوقا داروا لا الشان لا ماريكان سمع غير اوكي هذا مكان
الزين والعين الزرقا جنبكم الخير اليوم يمشيو بالفرقة
مش معطوب اسم لقيت نوبتي يمال وشمال ما تسوى سي كلمتي حتى من فيل الطاكسي داروا لها الشان الامريكان اسمع غير اوكي اوكي هذا ما كان.
Merci Khadija, merci Olivia Gesbert. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. À lire, je vous le rappelle, le bouquin de Saïd Bouamama aux éditions du Jet Bleu. Un jet comme l'oiseau, hein, Jet Bleu. L'affaire du foulard islamique, la production d'un racisme respectable. Pour information, le site de la commission Islam et Laïcité, www.islamlaïcité.org. Et plus d'informations sont à votre disposition sur le site de là-bas si j'y suis, en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Florence Lambollet et Antoine Viossa. Yann Chouquet, c'est les musiques. Pascal Le Pascariello, c'est elle qui vous donne toutes les précisions sur notre site. Christophe Imbert s'occupe du répondeur et du numéro du répondeur, et je pense que ça va chauffer pour demain. Ça va être c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. C'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve demain, on trouvera peut-être un peu Khadija demain, on verra. Ah, ce sera à 17h de toute façon. Après, ben, il n'y a pas de pub, tiens, aujourd'hui. Alors voilà, on retrouve, comme il est 17h57 et 35 secondes, Frédéric Bonneau et son charivari. Salut!